Alors, il n'y a pas longtemps du tout, j'ai appris que vous partager, voilà. Et puis, donc, première réaction, « Seigneur, tu veux que je parle de quoi ?» Et puis, ça n'a pas traîné, je montais l'escalier pour aller dans la maison, et à la cuisine, « Parle-leur de moi, le Père. » « Seigneur, oulololololo !» Alors, je suis tremblante devant vous, parce que c'est un sujet immense, c'est immense, ça, c'est... Alors, j'ai une toute petite révélation, vous savez, un tout petit niveau, mais bon, je vais quand même vous le partager. Puis, Seigneur, tu prends le relais, et puis, parce qu'il y a beaucoup de paroles, et puis que la parole de Dieu, elle renverse nos fausses conceptions, elle nous travaille, elle lave. La parole, c'est cette eau vive qui lave, vous savez, qui purifie, comme on l'a dit, hein, ça lave. Et puis, on est aussi dans un temps particulier, et vraiment, je veux le dire, le prophétiser, vous voyez, sur notre pays, le Seigneur, il connaît la France, et il aime la France, et il sait que c'est une nation terriblement orpheline. Et ça fait pas, c'est pas récent, c'est des siècles d'orphelinat, c'est des siècles de trahison par des faux pères. Et la France, elle a souffert de ça énormément, et le Seigneur, il le sait. Et il entend ce cri presque inconscient, ce cri d'une nation qui voudrait un vrai père. Et on est dans des temps où le Père, notre Père du ciel, il y a un puissant mouvement, il attire vers sa poitrine, il attire d'abord son peuple, et puis après c'est une nation, mais il commence toujours par son peuple. C'est quelque chose de puissant, il attire, il y a ce désir. Et je sentais, en préparant ce message, je sentais ce désir du Père qu'on parle de lui. Ce désir, vous voyez, c'est quelque chose de brûlant. Et vous ne pouvez pas savoir comme il est heureux, je vous le dis de sa part quand même, hein, je me permets, il est heureux quand vous êtes là. Il est heureux de vous voir. On peut pas imaginer. Il est tellement heureux de vous voir. Alors, voilà, je vous dis de sa part, parce que c'est vrai. C'est vrai. Et puis, voilà. Alors, connaître le Père. Connaître, au sens biblique. Hein. Il y a un verset dans 2 Pierre. Je vais vous donner des versets, mais bon, voilà. Certains qu'on va lire, et puis d'autres que je vous les donne. 2 Pierre 1-2, que la grâce et la paix vous soit multiplié, la suite, par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une relation entre la paix, la grâce et la connaissance. Hein, quand on connaît, eh bien, il y a une multiplication de la grâce et de la paix. C'est lié. Et puis dans tous les prophètes, il y a ce cri du Père, ils ne me connaissent pas. C'est dans Jérémie, ils ne me connaissent pas. On va le prendre. Jérémie, chapitre 9, au verset 2. Il faut voir ça, c'est pas une parole sèche qui est écrite. Le Père, c'est vibrant, c'est des entrailles, c'est des émotions, ça vibre, vous voyez. C'est pas quelque chose de froid et d'impersonnel, comme disait Franck, là. Le Père, c'est tout sauf froid et impersonnel. Hein. Alors, Jérémie, et rien de tel que les prophètes. On n'aurait que la Torah, ce serait un peu, ça ne donnerait pas toute l'image du Père. Mais les prophètes, c'est les entrailles du Père qui s'expriment là. Alors, Jérémie, chapitre 9, ouais. Alors il y a le verset 2 qui dit ils ne me connaissent pas. C'est où ça? Je ne le vois plus. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Ah oui. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Ils vont de méchanceté en méchanceté. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Et après, vous avez le verset 23. Passez au verset 23. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? C'est qu'on le connaisse tel qu'il est, qu'on sache qui il est réellement, d'avoir de l'intelligence, de me connaître, moi qui exerce la bonté, le droit, la justice, un Dieu bon, un Dieu droit, un Dieu juste. Eh bien, vous connaissez ce verset d'Osée, hein, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Et notre Église de France, elle est en partie dans la mort parce qu'elle ne connaît pas son Père. Et il y a cette demande du prophète Osée 6, hein, vous savez, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons, cherchons à connaître. Et après, Osée 6, il y a ce verset qui nous dit qui nous exprime qui est Dieu. Je ne prends pas plaisir au sacrifice, mais à la fidélité. Et là, on pensait au message de Nadine sur l'Alliance la semaine dernière. Hein. C'est cette fidélité dans l'Alliance. Je préfère aux holocaustes la connaissance de Dieu. Pourtant, les holocaustes, il y en avait en Israël à cette époque. Hein. Je préfère aux holocaustes la connaissance de Dieu. Je préfère à tous les sacrifices, je faisais la connaissance de Dieu. À la façon des hommes, ils ont enfreint l'Alliance, c'est là qu'ils ont trahi. Donc au cœur de la connaissance de Dieu, il y a la connaissance de l'Alliance et de la fidélité. Et pour Dieu, le connaître, c'est très important. Le connaître pas intellectuellement, mais d'une manière vraiment, vraiment intime. Et dans Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc il y a aussi une relation entre la vie et la connaissance. Si en nous, il y a des parts de mort, eh ben, c'est qu'on ne connaît pas Dieu comme il faut. Vous voyez, c'est tout simple, quoi. Vie, connaissance entraîne vie. Pas de connaissance ou une connaissance imparfaite, eh ben, il y a des zones de vie, mais il y a des zones de mort. Et puis aussi, une relation entre la connaissance et l'action dans le royaume. Hein. De notre mesure de connaissance de Dieu découlera notre mesure d'action dans le royaume. Et bon, le verset, c'est Daniel 11, hein, qui dit 11.32, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. » On parle de l'ennemi. Hein. « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. » Là aussi, hein, on parle d'une alliance rompue, trahie. « Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. » Une autre traduction, « sera fort et agira. » Quand on connaît Dieu, on agit et on est fort. Donc, ça, c'est beau quand même, hein, tout ça. Connaître Dieu. Et en plus, on réjouit son cœur. En plus, c'est le désir de son cœur. Vous voyez, c'est tout ça, connaître Dieu. Alors, bien sûr, bon, je ne vous dis pas comment connaître Dieu. On verra après. Donc, quand on voit tout l'enjeu qu'il y a sur la connaissance de Dieu, on comprend bien que la stratégie de l'ennemi, ce sera déformer cette image de Dieu. Tout son effort, ça va être de déformer, nous mentir sur le vrai caractère de Dieu, sur qui il est, pour abîmer, perturber, voire même empêcher complètement cette relation, bloquer cette relation. Alors avec Jésus, ça va, à peu près. C'est juste notre ami, notre frère, mais avec le Père, oula. Vous voyez, il va tout faire pour bloquer, pour fausser l'image du Père. Et là, je vous ramène au compte, dans le temps de Jésus, on va commencer par des choses un peu dures, du temps de Jésus. Donc imaginez, hein, quand même, dans tout le globe terrestre, il y avait un seul petit endroit où il y avait la vraie révélation, la parole qui avait été donnée à Moïse, c'était donc Israël, un tout petit pays, au milieu d'une mer de paganisme, d'idolâtrie, de sacrifices humains, enfin vous voyez quoi, le contexte. Et puis il y avait ce tout petit pays où, normalement, ils étaient censés avoir la connaissance du vrai Dieu. Et puis du temps de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il y a les pharisiens, les sadducéens, les scribes, tous ces gens-là. Et vous savez ce qu'il leur dit Jésus à ces gens-là? C'est fort, hein? Ouh là 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 là. Alors là, vous pouvez le prendre celui-là aussi. Jean 8, 44. Imaginez, hein, c'est les chefs religieux du seul pays au monde où on connaît. Enfin, on connaît la parole, quoi. On a donné la Bible, l'Ancien Testament, je veux dire. Le seul pays dans le monde entier. Alors, il va leur dire, Jean 8, 44, c'est très, très dur. Et ça nous montre les efforts acharnés de l'ennemi pour saboter l'image du Père. Donc, Jean 8, 44. Vous avez pour Père le diable. Et dit ça des chefs religieux, hein, des pharisiens. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Imaginez, hein, Jésus s'adresse à des chefs religieux. Votre père, c'est le diable. Vous ne me connaissez pas, dit-il au verset 19, 8, 19, vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Et il s'adressait à des gens qui passaient des heures et des heures et des heures à lire la Bible. Déjà, à un jeune âge, il avait mémorisé des quantités incroyables de versets. Vous ne connaissez ni moi, ni mon père. C'est assez terrible. Et non seulement ils se sont construits un faux père, mais en plus ils imposaient cette fausse image au peuple. Et le peuple croulait sous les charges. Hein. Et verset 38, « Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. » Et les paroles les plus dures, les plus terribles de Jésus sont adressées à ces gens-là qui ont perverti l'image du Père et ont mis des fardeaux très pesants sur les épaules des gens. Et les paroles les plus terribles de Jésus, c'est Matthieu 23, la série des malheurs, vous savez. C'est là où on sent une indignation, mais alors Vous savez, Jésus, quand il se met en pétard, c'est fort, hein. Une indignation incroyable. Je crois que c'est cette indignation devant une perversion du Père, de la perversion de l'image du Père. Et je ne dis pas tous les malheurs, mais c'est conducteur aveugle, serpent, race de vipère. Matthieu 23, 23. Vous laissez de côté ce qu'il y a d'important dans la loi, la justice, la compassion ou la miséricorde, la foi ou la fidélité. Vous liez des pesants fardeaux sur les gens. Vous voyez, c'est la série des malheurs. C'est terrible, ces paroles. Parce que les gens, ils avaient perverti peut-être même sciemment l'image du Père. Parce qu'ils connaissaient la parole quand même, hein. Et ils avaient perverti ça. Donc c'est aussi une mise en garde pour nous. Bon, après, je dirais plus de choses dures comme ça. Hein. C'est une mise en garde pour nous. Quelle image de Dieu transmettons-nous? Vous voyez? Quelle image de Dieu transmettons-nous? Pour ceux qui ont vu, je pense à un film, Jeanne R. Vous savez, le Jeanne R. On voit la Jeanne R. Quelqu'un connaît ce film? C'est un beau film, hein. Et puis, au début, on voit Jeanne R. Elle est mise dans un truc religieux, quoi, une boîte religieuse pour orphelins, là. Et puis on voit ce terrible pasteur qui dit à une fille qui avait des magnifiques cheveux, hein, je crois blond ou roux, enfin des magnifiques, il dit non, ça c'est un instrument de séduction, hein, tu me coupes tout ça, hein. Et il la coupe vraiment ras là, ces beaux cheveux là, magnifiques, non, c'est pas de Dieu ça, tu me coupes ça va séduire plein de monde, c'est pas bon, hop, tu coupes, ça c'est, et c'était un pasteur qui faisait ça, vous voyez, bon pour dire quoi, hein, il y a le Père, notre Père du ciel, et puis il y a le Père le diable, vous voyez, et plein de gens dans le monde, hein, plein de gens, je ne dirais pas la religion en question, mais plein de gens font croire que c'est notre Père céleste et puis c'est le diable, quoi. Hein, je ne dirais pas la religion dont on parle. Voilà. Donc, un des aspects de la mission de Jésus, c'était vraiment faire connaître le Père. Et on comprend qu'il y a eu cet affrontement terrible toute sa vie avec le faux Père des pharisiens, avec les pharisiens qui avaient cette image de Père perverti. C'était des affrontements, mais incessants et terribles, hein, avec cette haine, etc. Et donc, un des aspects de la mission de Jésus, c'est Jean 1, 18, hein, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. » Jean 1, 18. Et puis dans Hébreu 1, 3, donc version qu'une, « Le Fils reflète d'une manière éclatante la gloire de Dieu et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. » Donc je répète, hein, le Fils reflète d'une manière éclatante la gloire du Père, hein, et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Donc Jésus reflète parfaitement le Père. Il est venu pour nous montrer qui était le Père. Et il y a un passage douloureux qui exprime quand même, une douleur de Jésus, c'est Jean 14. Jean 14, il y a comme un cri, et peut-être que ce cri résonne aussi par rapport à l'Église. Jean 14, 8, 10. Vous savez, c'est Philippe qui demande là, « Seigneur, montre-nous le Père, ça nous suffit, quoi. » Et puis, il y a comme ce soupir de Jésus qui répond, mais Jean 14, 8, 10. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, Jésus a parfaitement le cœur du Père. Et je ne sais pas si dans Ésaïe 9, 5, vous savez, quand on dit un fils nous est né, il y a quelque chose de curieux après. On l'appellera Père éternel. C'est curieux, hein? Un fils, donc on pense au petit Jésus de la crèche, tout ça, vous savez, c'est le texte qu'on dit à Noël tout, sans arrêt. On l'appellera Père éternel. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment parfaitement le cœur du Père. Mais alors, vraiment parfaitement. Et je voudrais vraiment que vous conduire ce matin dans quelques facettes, parce que c'est le Père, c'est immense, quoi. Mais une fois qu'on commence à le connaître, après, on est passionné, quoi. On a une passion. Alors, on a une passion pour Jésus, je sais, on est passionné pour Jésus. Mais le Père, c'est le Père. Je crois qu'on doit recevoir cette passion pour le Père aussi. C'est immense, quoi. C'est juste de petites facettes, parce qu'il y en a énormément. Ce matin, par exemple, on a été conduit dans la sainteté, la majesté. Vous voyez, ça, c'est des facettes du Père. Sainteté, majesté, pureté. Bon, et puis il y en a d'autres. Alors, on va imaginer que c'est comme une maison. Enfin, vivre dans la présence de Dieu, c'est comme une maison. J'ai bien aimé l'image de Franck quand tu parlais de ta petite salle d'enseignement un peu obscure et froide. Et après, il est emmené dehors. Et puis, c'est la maison du Père après, dehors. C'est la lumière, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison du Père? Ah, ça, c'est plus réjouissant que le début. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison du Père? Alors j'ai mis un peu qu'est-ce qu'il y avait, et puis que ça nous démolisse un peu nos idées préconçues, hein, parce qu'on a des idées un peu préconçues. Dans la maison du Père, il y a la lumière. La lumière. 1 Pierre 2:9. Il nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je voudrais simplement que vous savouriez ces versets. Vous voyez, c'est la parole qui doit laver nos cœurs, qui doit renouveler nos intelligences. Hein. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ben, il faut connaître le Père pour discerner sa volonté. Donc, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Colossiens 1, 12, 13. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Puis la suite, elle est trop bien, la suite. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On est dans un autre royaume. On est dans un autre royaume. Alors, on peut vivre à côté de quelqu'un qui est dans le royaume des ténèbres, à côté, là, hein, quand on est au boulot, là, tout ça. On peut avoir, mais nous, on est dans le royaume de lumière. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et puis, c'est une lumière, ce n'est pas une lumière froide, vous savez, que disait Franck, hein, c'est cette lumière du soleil qui est... C'est la chaleur, quoi. Alors, si je vous dis que Dieu est chaleureux, ça vous va? C'est pas dans la Bible, hein. C'est un adjectif qu'on n'a pas souvent l'occasion d'employer avec Dieu. Dieu est chaleureux, ben, je vous le dis, c'est vrai. Dieu est quelqu'un d'extrêmement chaleureux. Il est accueillant. Alors j'imagine, par exemple, imaginez des gens, je ne sais pas, peut-être ce matin dans la salle, ils ne sont pas locus depuis plusieurs fois, ils vous préféraient faire la grâce dimanche matin, tout ça. Et puis ils arrivent en disant, oula, oula, un petit peu complexé, un peu culpabilisé, tout ça. Eh ben, le Père, il fait quoi? Ben, il est hyper content de les voir. Et puis, ah oui, mais tu sais, Seigneur, j'ai fait ma grâce plusieurs semaines, là. Mais je suis tellement contente de te voir. Bienvenue, on va passer un super moment ensemble. C'est ça, le Père. Il est quelqu'un de chaleureux. Et parfois, autour de nous, peut-être que vous avez des gens chaleureux, ils reflètent cette facette du Père. C'est pour ça qu'on reflète tous des facettes du Père différentes, hein, vous savez ça. On a tous des petites facettes différentes. Et les gens chaleureux, ben, à travers eux, on découvre la chaleur du Père, quoi. La chaleur, un accueil chaleureux. On a accepté. On est bienvenu. Je vous donne un verset quand même pour confirmer. Hein. Jean 6, 36, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Ça, c'est l'accueil du Père. Et puis attention, c'est une bonne chaleur. Hein. Parce qu'il y a une mauvaise chaleur qui débarque sur le globe, vous savez très bien. Avant-hier, la télé, oulala, et puis on sent cette angoisse. Mais ça, c'est pas du blague. Hein. Il y a une angoisse sourde qui monte dans les peuples. Hein, parce qu'on a l'impression d'une machine qui commence à être complètement détraquée. Entre nous, d'ailleurs, c'est Apocalypse 16. Hein, vous savez, la chaleur du soleil qui va brûler tout. Enfin, bon, c'est tout à fait prédit, prophétisé. Mais, alors j'ai un super verset, parade, la parade. La parade, je vous le donne, parce que quand vous entendrez parler du fait de serre et tout ça, vous avez le verset, c'est bon. Vous avez l'arme. Vous êtes parés. Ésaïe 4, versets 5 et 6. Et en plus, pendant la marche, ils l'ont déjà un petit peu vécu, non? Vito, un petit peu. Hein. Ils marchaient en pleine canicule et nous, on se disait, oh là là, les pauvres, en pleine canicule, fin juillet, c'est terrible, comment ils font? Enfin, et puis, ils ont vécu ça. Ésaïe 4, versets 5 et 6. L'Éternel établira sur toute étendue de la montagne de Sion, donc ça nous parle de la montagne de la présence de Dieu, sur ses lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour, un feu de flamme éclatante pendant la nuit, donc cette fameuse nuée protectrice. Et puis là, je vous donne une meilleure traduction que celle de la seconde. Sur toute chose, la gloire du Seigneur sera un dais. C'est beau en plus comme image. Hein. Sur toute chose, la gloire de Dieu sera un dais. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. Ah, un dais, c'est une sorte de grand tissu là, qu'on mettait autrefois, tu sais, sur les lieux de rassemblement, quoi. Hein? Oui, c'est ça. Voilà, c'est un dais, ouais. Ah, ouais. Oui, c'est ça. Mais nous, c'est nous là, les nobles. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. Donc, on croit vraiment que pour le peuple de Dieu, il y a un abri, il y a quelque chose de surnaturel. Ne soyons pas dans la crainte. Ça, vraiment, je voudrais vous le dire, de la part du Père, ne soyez pas dans la crainte par rapport à cette angoisse. Il y a cette angoisse qui monte dans les nations. Et nous, on ne doit pas être contaminés par cette angoisse. Ça, c'est important. On vit dans le surnaturel, la protection surnaturelle de Dieu. Et puis, donc, il y a cette protection. Dans la maison du Père, donc, je récapitule, hein, la lumière, la chaleur, la protection, la sécurité. Il y a cette très belle image dans... du psaume 91, vous savez, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Le Père, c'est aussi maman poule, vous savez. Et d'ailleurs, je ne vous choque pas si je vous dis que dans le Père, il y a aussi la mère. Hein. Attention. Alors les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont inventé une fausse mère, vous savez. Je ne vous dis pas le nom non plus. Hein. Une fausse mère, voilà. Parce qu'ils ne savaient pas que Dieu, il est Père et Mère. Il y a des super versets dans la Bible, je ne vous dis pas ça, Manaï. Je souffle les douleurs de l'enfantement. Dieu se compare à une femme qui enfante, vous voyez. Alors, nous, on se reconnaît bien, là. Mais Dieu est Père et Mère. Et donc, la sécurité totale, là, je vous ramène au message de Luc. Vous savez, sur cette sécurité du salut. Et Jean 10, 29, mon Père m'a donné les brebis. Hein, mon Père qui m'a donné les brebis est plus grand que tous. Personne ne peut les arracher de la main du Père. Personne ne peut les arracher de la main du Père. Il y a cette sécurité. On est aimé inconditionnellement. Et puis, je pense que je vais peut-être vous montrer là, aborder quelque chose là. Dans cette sécurité, il y a le repos. Luc nous en parlait il y a 15 jours, hein, le repos. Le repos, c'est vraiment lié à la révélation du Père. Quand on n'a pas vraiment cette révélation, on est dans l'agitation, le stress et tout, et tout, et tout. Et il y a le repos. Alors, Béné, elle m'a fait un cadeau il n'y a pas longtemps. Puis après, il y a un deuxième cadeau. Elle m'a fait un cadeau, qui était un tableau. Et puis, j'ai mis vraiment, pour moi, Seigneur, il me parle, quoi. Je me dis, à chaque fois que je suis un peu stressée, Seigneur, non. Ta position, c'est ça. Je vais vous montrer. Voilà, ma position en Christ, c'est ça. Ah, bah, il faut que tu fais passer. On fait passer. Alors c'est le psaume 131. Non, c'est ça. Alors c'est le psaume, vous savez, le psaume 131. Mais il y avait une traduction qui ne me plaisait pas du tout. On dit, vous savez, je suis comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. Vous connaissez ce psaume, hein, avec cette traduction, sevré. L'étymologie de sevré, c'est séparé. Ça ne colle pas. Vous voyez, sevré, séparé, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, ça. À qui on a coupé le lait, là. Pouf, pas non, plus de lait. Donc, ça ne va pas. Non, je vous donne une autre traduction. Je tiens mon âme dans le calme. J'ai fait taire mes désirs. Comme un nourrisson rassasié, ou gorgé de lait, vous savez, rassasié, dans les bras de sa mère, telle est mon âme en moi. Je tiens mon âme dans le calme. J'ai fait taire mes désirs. Comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, telle est mon âme en moi. Israël, mets ton espérance en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Voilà. Donc notre Père, c'est aussi cette maman, et puis on est là, bien au repos. Et on a besoin sans arrêt de revenir à ça, parce que sans arrêt, hein, il y a ce stress qui est là. Et puis là, Béné, j'ai jamais vu, hein. Personne n'a jamais vu sauf Béné, c'est ça? Ah, puis Françoise. Alors c'est un scoop, c'est la nouvelle bannière de Béné. On rentre dans le repos, là. Hein. Merci, Seigneur, pour le don qui est en Béné. Dans la maison du Père, il y a la paix. Et puis, il y a l'amour, il y a la provision. El Shaddai, c'est aussi ce Dieu qui a des mamelles, vous savez, des mamelles qui allaitent, qui pourvoient, qui nourrissent. C'est ce père, cette mère nourricière. Et puis, il y a aussi cette atmosphère de don de soi total. C'est pas, il n'y a rien d'égoïste dans le père, rien d'égocentrique, vous voyez. Rien à voir avec les pères de la terre, rien à voir. Souvent, dans les pères de la terre, il y a ce côté égoïste. Pensons au père que, chez Molière, c'était l'égoïsme total. Les pères dans les comédies de Molière, c'est l'horreur totale, égoïste, à fond, égocentrique. Mais non, dans le père, il n'y a rien de ça. Jésus était absolument donné aux autres, il était donné à ses disciples, il était donné à la foule. Et c'est le cœur même du Père, c'est se donner. C'est pas, vous savez, ce Père lointain qui veut qu'on lui donne l'adoration, parce que voilà, non, c'est pas ça du tout. L'adoration, c'est la relation, c'est l'échange, c'est le courant d'amour. On se donne à Dieu, il se donne à nous, c'est ça, c'est une relation sans arrêt. Dieu a donné son Fils. Et là, il y a quelque chose de mystérieux. Est-ce qu'on sait le prix ? Bon, on sait le prix payé par Jésus, enfin on sait. On se doute du prix payé par Jésus, mais est-ce qu'on se doute du prix payé par le Père ? Je pose la question. J'ai un petit peu commencé à comprendre ça, tout petit peu. D'ailleurs, en parenthèse, hein, quand on est parent, soit dans la chair, soit dans l'esprit, hein, quand on est parent, on apprend des choses sur le Père. Et ça nous forme. Et quand mon grand Samuel est parti à Hawaï, il dit, oulala, il y a eu un arrachement terrible. Et là, je pose la question, je dis, Seigneur, ça t'a fait quoi quand Jésus est parti sur la terre, là ? Ça t'a fait quel effet ? On comprend un peu plus, vous voyez, c'est... Parfois, on vit des choses un petit peu dures dans la vie, mais ça nous fait comprendre le cœur du Père. Ça nous aide à comprendre. Et puis, dans la maison du Père, il y a la stabilité. Ça ne va pas être toc-toc, les coups d'humeur, vous savez, de nos pères de la terre, là. Non, stabilité. Jacques 1, 17. Tout don excellent, tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a pas don, ni changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Il y a cette stabilité, cette immuabilité, mais en même temps, c'est vraiment, c'est pas contradictoire, c'est complémentaire, il y a une vie. Il y a vraiment la vie. Jean 10, 10, je suis venue pour que les brebis aient la vie, qu'elle l'ait en abondance. Il y a le mouvement, il y a la vie, ça bouge, quoi. Alors, je peux vous raconter une blague. Non, mais certains la connaissent, la blague. C'est dans une église, un dimanche matin, et tout le monde est très sage. Les gens se tiennent bien sur leur chaise. C'est la sagesse, pas dans la connotation biblique, mais dans la connotation du monde. Hein. Sages comme des images, ils sont tout sages, tout tranquilles. Et puis, le cul se déroule bien gentiment, bien sagement, d'une manière tout à fait prévisible. Et puis, un chrétien, il est là et il dit « Ah, je m'ennuie !» Et puis, il entend dans la voix du Saint-Esprit « Moi aussi !» Bon, donc dans la maison du Père, il y a la vie, il y a vraiment la vie, ça bouge quoi, il y a le mouvement. Alors le mouvement, acte 17, 28, en lui nous avons la vie, le mouvement, l'être, ça bouge quoi. Mais c'est un mouvement dans l'ordre, mais pas un ordre selon nous quoi. Et puis, ah oui, un super verset, toujours dans Jean 10, hein, verset 9. Si quelqu'un entre par moi, c'est Jésus, mais bon, on a vu, hein, je vous ai prouvé là, A plus B, que Jésus, c'est le cœur du Père. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Il y a le mouvement. C'est pas, je les mettrai tous dans un enclos, et puis ils bougeront plus. Et puis je leur donnerai leur nourriture, là, et puis ils bougeront plus, ils seront tous bien sages, les brebis, là, dans leur enclos. Non, c'est pas ça. Il entrera, il sortira, trouvera des pâturages, il y aura la transhumance, on ira loin, sur les hauts plateaux, et puis on traversera des vallées sombres, mais c'est pas grave, je serai avec eux. Enfin, ouais, c'est tout ça, c'est le mouvement. Et d'ailleurs, il y a des cultures où, par exemple, les femmes, c'est à la maison, cloîtrées, à la maison, là, bloquées. Et puis il y a même des harems, elles sont super bloquées. Mais le père, c'est pas ça. Je vous dis ça pour les femmes, mais quoi, qu'elles se sentiraient un peu bloquées, là. Les femmes, c'est pas ça, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est... Ça, je racontais aussi une histoire. Un jour, c'était le 1er novembre ou le 11 novembre, je croyais candidement, oui tu connais Manu, je croyais candidement que les magasins étaient ouverts. Donc je dis à la famille, je vais faire les courses, une petite heure là, donc toute la famille croit que je suis aux courses, je vais aux courses, ah, fermé. Alors il y a deux voix qui parlent, une voix qui dit... T'as vu la tonne de boulot que t'as à la maison, là ? Faut y aller, hein. Boulot, t'as vu ça ? Juste une heure libre, là, tu vas pouvoir avancer dans ton montagne, repassage, gna gna gna, tout ça. Et puis, autre voix qui dit, chouette, on va se balader. Tout le monde croit que t'es aux courses, tu peux être tranquille, tu peux te balader. C'était qui la voix du père, vous croyez? C'était laquelle des voix du père? J'allais me balader à Mürbach, toute contente. Ouh, chouette. Mais il y a quelques années, j'aurais jamais fait ça. Hein. Attention. Hein. Non, je veux dire, plus on grandit dans la révélation du père, et plus on est libre. Donc à 84 ans, vous allez voir comment je suis, ça va être terrible. On est libre. Et puis, il n'y a pas de impossible, vous savez. J'ai pas de sous, donc je peux pas... Non. On ira se balader dans les pays, tout ça. L'avion, tchouk, tout ça. Comme Luc, quoi. On va suivre le pas, Luc. Il y a déjà mon Samuel, Hawaï. Vous vous rendez compte, Hawaï? On dit, pourquoi pas le Gau, la forêt, à côté, là, Saint-Paul, trois châteaux. Non, Hawaï. Et vraiment, moi, je trouve qu'en tant que parent, on a dû avoir une grosse révélation du cœur du père pour dire, oui, d'accord, chérie, tu vas aller à Hawaï, on ira à Hawaï. C'est vrai, rationnellement, on aurait pu dire, ah ben dites, c'est plus économique, Saint-Paul, trois châteaux, quand même. Hein. Eh non, on a eu un petit peu le cœur du père, le déclic. Il nous a dit, en plus, le père, si, c'est bien ce qu'il veut faire, c'est, il faut y aller. Et on l'a laissé aller, et puis il est hyper content, et voilà. Et puis il croyait pas qu'il passe que des cours bibliques, hein. Il caresse les tortues aussi dans la mer, hein. Faut pas croire. Il s'éclate dans le Pacifique aussi, voilà. Donc on a un Dieu, voilà, faire éclater les images rigoureuses, là, choc comme ça, et puis on est serré et tout ça. Non, le Père, c'est la vie, le mouvement. Alors, je vous parlais aussi de la diversité du Père, de la création, la diversité. Alors, je vais quand même vous dire, quand j'étais très jeune, quand on aime Dieu, quand on est jeune, quand on est dans une certaine église, on se dit, tiens, pourquoi tu ne te ferais pas religieuse? C'est vrai. Et puis alors, j'ai regardé un peu les religieuses en civil que je connaissais, là, et puis j'ai trouvé qu'elles étaient toutes sur le même modèle. Elles avaient toutes uniformément, vous savez, les jupes droites, chemisiers. Enfin bon, aujourd'hui, c'est... Ouais. Les chaussures talons plats, tout ça. Enfin, c'était... c'était tristounet, vous voyez. Elles étaient tristounettes, ces religieuses. Enfin, au niveau du look. Et puis je dis, Seigneur, mais dans la nature, c'est gay quand même. C'est des couleurs, c'est tout ça. Alors pourquoi des gens qui veulent te suivre toute leur vie, t'aimer, tout ça, ils sont comme ça, et la nature, elle est comme ça? Et puis ça m'a travaillé, j'ai dit non, je ne suis pas faite pour être ça, hein, tata. Et puis après j'ai vu June Lewis une fois, elle intervenait au point du jour, oh, elle était habillée, oh là là, du jaune, du rouge, un vrai oiseau des îles, June. Je dis ça alors, mais c'est elle qui était dans le vrai, c'est elle. Hein. Et alors, il faut regarder la création, et puis ça nous ouvre les yeux, vous voyez, ça nous élargit, parce qu'on, pareil, on a des images de ce qu'il faut être qui sont un peu rigides, un peu... Regardez, alors j'ai pensé aux facochères. Vous connaissez les facochères? On pourrait dire, Seigneur, tu trouves que c'est beau un facochère, toi, esthétiquement, tu vois, la ligne, avec leur gros croix, là. Dieu a dit, c'est bon un facochère. J'ai même vu pire que des facochères. Non, j'ai vu à Toulon. Alors là, ça m'a choqué, vraiment. J'ai dit, Seigneur, là, tu me choques. Hein. À Toulon, dans le zoo de Toulon, au sommet du Mont Faron, il y avait Elisabeth, Sarah et puis Émilie. Vous savez ce que j'ai vu? Des singes avec un gros derrière tout rouge. J'étais horrifiée. Et puis en plus, il le montrait bien proéminent, tout ça. J'ai dit, Seigneur, tu ne trouves pas que c'est choquant des singes à derrière rouge quand même? T'as créé ça, franchement. Voilà. Mais pour dire que le Seigneur, il est bien plus divers, bien plus varié que nous. Hein. Et nous, on est dans notre moule. Les jeunes, là, vous savez, en ce moment, avec la mode, là, c'est si tu dépasses la taille 36, t'es morte, quoi. T'es plus. Il faut taille 36, sinon ça va plus. Et après, elles sont anorexiques, etc. Hein. On nous met tous dans un moule. Mais Dieu, il aime les envelopper et il aime les maigrichons. D'ailleurs, Astérix Obélix, si vous regardez. Hein, voilà, donc, je veux dire, Dieu, il aime cette diversité. On doit s'aimer avec le regard du Père, nous aimer. Hein. Voilà, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, sortir de cette gangue que veut nous infliger le monde, là, avec la pub, et puis tout le monde qui est filiforme, et puis la chirurgie esthétique dès 40 ans pour les rides, machin, truc, etc. C'est des terribles jougs qui pèsent sur le monde, là, actuellement. Enfin, en tout cas, le monde du showbiz. Et dans le Père, il y a la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, Galates 5.1. Et puis vraiment, on a besoin d'une révélation de cette liberté. Je crois qu'on est encore très loin de cette liberté. Parce qu'on a des tas de schémas religieux dans la tête, là. Et le Seigneur, en plus, il nous libère, non seulement de tous les schémas, mais aussi de tous les jougs et de tous les fardeaux. Il les porte à notre place. Alors ça, c'est génial. Alors là, je n'ai pas une preuve biblique du tout. Ce n'est pas biblique, mais j'ai un livre que je vous ai amené, parce que c'est notre culture, c'est notre identité, c'est français, quoi. C'est français. Et puis je sais que moi, à un moment donné de ma vie, ça m'a vraiment parlé, cette histoire. Et le Père m'a dit, il s'est servi de cette histoire, hein. Vous savez qu'il sert de notre littérature, Dieu, hein. Vous savez ça? Il se sert de notre littérature, il se sert de notre cinéma, il se sert de notre culture, parce qu'il sait que ça fait partie de nous, c'est notre culture, notre identité. Donc il se sert de ça, il nous parle à travers ça. Il s'est servi de ce passage, en tout cas pour me parler, et puis pour me dire qui il était en tant que père. Alors c'est dans une sombre forêt, à Montfermeil. Julie, c'est Montfermeil. Montfermeil, et puis il y a une petite fille de 8 ans qui porte un gros seau énorme. Vous voyez de qui je veux parler ? Voilà, voilà, ça c'est une fille, une petite fille. Là, je vous lis le passage. Parce que, imaginez, vous mettez à la place de Cosette et vous avez tous vos seaux, là. Vous portez, vous trimballez vos seaux. Et ne me mentez pas, vous avez tous des gros seaux que vous trimballez. Un jour ou l'autre dans votre vie, vous trimballez des seaux qu'il ne faut pas. Et après, ça vous donne des mal de dos et tout, et tout. Alors, après, alors, elle fit ainsi une douzaine de pas, mais le seau était plein. Il était lourd. Elle fut forcée de le reposer à terre. Elle respira un instant, puis elle enleva l'anse de nouveau, se remit à marcher, cette fois un peu plus longtemps. Il fallut s'arrêter encore. Après quelques secondes de repos, elle repartit. Elle marchait penchée en avant, la tête baissée comme une vieille. Le poids du seau tendait et raidissait ses bras maigres. L'anse de fer achevait d'engourdir et de geler ses petites mains mouillées. De temps en temps, elle était forcée de s'arrêter. Et chaque fois qu'elle s'arrêtait, l'eau froide qui débordait du seau tombait sur ses jambes nues. Cela se passait au fond d'un bois, la nuit, en hiver, loin de tout regard humain. C'était un enfant de 8 ans. Il n'y avait que Dieu en ce moment qui voyait cette chose triste. Parvenue près d'un vieux châtaignier qu'elle connaissait, elle fit une dernière halte plus longue que les autres pour se bien reposer. Puis elle rassembla toutes ses forces, reprit le seau, se remit à marcher courageusement. Et cependant, le pauvre petit être désespéré ne put s'empêcher de s'écrier « Oh mon Dieu, mon Dieu !» En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main qui lui parut énorme venait de saisir l'anse et la soulevait vigoureusement. Elle leva la tête, une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d'elle dans l'obscurité. C'était un homme qui était arrivé derrière elle, qu'elle n'avait pas entendu venir. Cet homme, sans dire un mot, avait empoigné l'anse du seau qu'elle portait. Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L'enfant n'eut pas peur. Voilà, ça c'est une des très très rares images de père dans la littérature française, hein, Les Misérables, Victor Hugo. C'est très rare, une image de père. Je les cherche. Seigneur, montre-nous quelque part. Il y a au moins Jean Valjean et Cosette comme relation père et enfant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Seigneur, il veut porter les fardeaux à notre place. On n'est pas dimensionné pour porter des fardeaux. On n'est pas créé pour ça, nous. On est créé pour la liberté, pour l'adoration, pour tout ça. On n'est absolument pas créé pour porter des fardeaux. Donc, quand on les porte, ça nous fait du mal. Ça, c'est sûr. Et parfois, on ne se rend même pas compte qu'on les porte parce qu'on est habitué. Cosette, régulièrement, il fallait qu'elle aille chercher son eau. Elle trouvait ça absolument normal. C'était son univers. Thénardier lui infligeait ça. Elle n'imaginait pas que ça pouvait être autrement. Et parfois, nous, ça nous colle à la peau. C'est en nous. On porte nos trucs, là. Et puis, on porte. On se fait mal comme tout. Et puis, parfois, alors, il faut venir dans la présence du Père. Il nous dit, non, là, tu portes un fardeau, là. Ah oui, je ne me rendais pas compte. Si, tu portes un fardeau. Moi, je veux le prendre. Donne-le-moi. Ah oui, alors on donne au Père. Et puis, pouf, juste après, on le reprend. Vous savez, comme on est. Non, tu me le donnes et puis je le garde et puis je le porte à ta place. Et vous imaginez, on n'a plus de fardeau, et ben on a dans la liberté, on est allégé, et on peut adorer, rentrer dans les œuvres préparées d'avance, les vraies, pas les fausses, quoi. Voilà, donc le Seigneur, il nous libère de la servitude et on rentre dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et puis, alors, une chose aussi sur laquelle je voulais insister, c'est que le Père, il nous encourage à l'initiative, à la créativité, à la découverte des choses nouvelles. Ce n'est pas le père qui vous cloître chez vous. Lui, attention, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, tatati, tatati. Il nous encourage. Et je vous rappelle cette image des brebis qui sont en mouvement, qui vont sans cesse d'un pâturage à un autre. Elles découvrent sans arrêt des nouvelles choses. Et puis, en plus, c'est très mauvais pour des brebis de tourner en rond dans le même pâturage parce qu'elles n'ont plus rien à manger et puis elles abîment le terrain. Enfin, c'est très, très mauvais. Les bergers professionnels, ils vous le disent. Il faut sans arrêt aller vers les choses nouvelles. Et donc, le Père, il veut stimuler en nous cette curiosité de découvrir les richesses enfouies, vous savez, les choses où nous emmener très haut sur la montagne. Il nous dit dans Ésaïe 42, verset 16, « Je conduirai les aveugles par des chemins qu'ils ne connaissent pas. » C'est nous, les aveugles, hein, faut être humble, quoi. « Je conduirai les aveugles par des chemins qu'ils ne connaissent pas. » Et puis, parfois, en nous, il y a des choses qui ont été cassées au niveau d'initiative, vraiment cassées, par notre passé, par des mauvaises expériences. C'est cassé, et puis on n'ose plus. Et le Père, il voudrait vraiment réparer ce goût d'initiative, ce goût de prendre des risques, ce goût d'oser. Il veut le réparer. C'est vraiment quelque chose qu'il veut faire. Parce que le Père, il donne l'identité, mais il donne aussi ce goût d'explorer. me rappelle, mon papa, maman, elle aimait bien les sentiers balisés, mais papa, il aimait bien sortir des sentiers battus. Alors avec lui, on se retrouvait toujours dans des raccourcis pas possibles. On se perdait, on s'égratignait, on était dans les ronces, on était heureux comme tout. Et puis maman, non, pourquoi ? Vous voyez, ça c'est typique père et mère, là, le père, il vous emmène dans des trucs. Voilà. Ou comme, vous savez, dans les jeux d'enfants, vous avez le toboggan. Alors ça, c'est classique aussi. Il y a la maman, elle tient la main, parce que des fois que le petit tombe, vous savez, le toboggan, tout ça. Et le père, il dit, vas-y, super, prends. Et puis, il roule, là, le petit glisse à toute allure. Le père est heureux, quoi. Et la maman, ta. Donc le père, c'est lui qui vous donne, il vous lance des défis. Et puis il dit, allez, on y va. Et je crois que vraiment, le Seigneur a besoin de restaurer ces choses en nous. Il veut qu'on reçoive son encouragement. Alors nous, en tant qu'enseignants, je le dis parce qu'on a pas mal d'enseignants ici, en tant qu'enseignants, on a compris ça. On encourage, vas-y, tu peux y arriver, tu peux avoir des bonnes notes, tout ça, on a appris ça. Et j'avais à cœur de vous dire aux enseignants qui sont là ce matin, ceux qui sont à l'école chrétienne et puis ceux qui ne sont pas en école chrétienne, tous, de dire, eh ben, cet encouragement que tu veux donner aux enfants, que tu leur donnes, c'est bien, tu les encourages à fond, tu as ce cœur du Père pour encourager, n'oublie pas que moi j'ai ce même regard sur toi, ne sois pas dur avec toi. Oui, parce que nous, les enseignants, on est durs avec nous-mêmes. Mais le père dit, non, tu encourages tes enfants, ben, encourage-toi exactement de la même manière. Moi, j'ai le même regard sur toi pour t'encourager. Tu as préparé un cours, il n'y avait pas d'intégration biblique dedans, mais pardonne-toi, quoi. Seigneur, je voulais faire une leçon sur les accords du parti passé avec le CO déplacé avant, mais je n'ai pas trouvé l'intégration biblique. Pardonne-toi, quoi. Le Père, il t'encourage, voilà. Donc, je voulais vraiment le dire aux enseignants, enfin, nous le dire à nous, voilà, parce que parfois, on est vraiment dualiste, hein. On encourage les enfants, et puis nous, on est dur, on se dit des choses dures. Voilà, c'est exactement le même regard, qu'on ait le regard du Père sur nous aussi, ça commence par nous, hein. Voilà. Donc, en tout cas, alors je dis aussi à l'Église Josué, nous, on est l'Église Josué, donc, je crois que vraiment, on est dans un temps où le Seigneur va nous lancer dans des choses nouvelles. Et donc, il veut, si vous regardez tous les messages des derniers dimanches, hein, il veut profondément nous enraciner dans la connaissance du Père. On a vraiment besoin du Père. Comme Jésus, vous savez, quand il est allé en mission sur la terre, il a reçu des tas d'encouragements. Tu es mon fils bien-aimé, enfin, vous voyez, tout ça. On a vraiment besoin de ça parce qu'il y a des choses nouvelles qui sont devant nous et on a besoin de tenir la main du Père, quoi. Et j'aime bien ce psaume 18, verset 30. « Avec toi, Père, je me précipite sur une troupe en armes. » Hein, on a besoin du Père pour ça, avec toi. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Et puis, verset 34, toujours le psaume 18, le Père rend mes pieds, enfin c'est moi qui dis le Père, Dieu, hein, le Père, rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait tenir sur les hauteurs. Voilà. Mais c'est avec le Père. On peut faire des choses absolument impossibles, mais avec le Père, en tenant sa main et en le connaissant pour qui il est. Et donc, je crois qu'on est dans un temps crucial où le Seigneur nous apprend à le connaître, à avoir cette intimité avec lui, à demeurer dans ce repos, tout ça parce qu'il sait ce qu'il y a devant, et il sait qu'on a vraiment besoin de le connaître pour ce qu'il y a devant. Et puis aussi, il veut qu'on manifeste qui il est au monde. Ça, c'est je vous l'ai dit, la Nation de France, elle a besoin d'une église qui connaisse le cœur du Père. C'est vraiment, vraiment important. Et un test pour savoir si on a le cœur du Père, alors c'est un test dur, hein, mais je vous le donne quand même parce que c'est dans la parole. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Vous savez ce qu'il y a avant ? Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il y a un test pour savoir si on a le cœur du Père ou pas. Est-ce qu'on aime nos ennemis ou pas ? C'est le test. Aimer ses ennemis. Avoir le regard du Père sur ses ennemis. Ça, c'est... Quand on aura le regard de Dieu, le regard du Père sur les ennemis, là, on saura qu'on est en phase d'avoir le cœur du Père, quoi. Voilà. Et... Donc je récapitule, hein. Enfin, on n'a pas tout vu, bien sûr, c'est immense, mais dans la maison du Père, il y a la lumière, la chaleur, la protection, la sécurité, le repos, la vie, la paix, l'amour, la provision, l'abondance, l'atmosphère du don de soi total, la stabilité. Ah oui, il nous donne notre identité aussi, il nous appelle par notre nom, il nous donne notre identité. La joie, la diversité, le mouvement, la liberté, l'encouragement à découvrir des choses nouvelles. Et tout ça, c'est dans la maison du Père. Voilà. Donc, je crois qu'on va peut-être prier, parce que parmi nous, il y a ceux qui ont déjà un petit peu cette connaissance du Père, mais qui sont appelés à être des pères et mères pour l'Église et pour la nation. Et puis ceux qui ne connaissent pas trop et qui ont besoin de connaître plus. Alors, si vous voulez, on va peut-être prier par rapport à ça, hein. je prie. Ouais. Bah, tu peux compléter, puis Manu aussi, vous complétez. Hein. Seigneur, on reconnaît qu'on a une révélation tellement imparfaite de toi. Et on veut te voir on veut voir que tu es en train de nous attirer tous sur ta poitrine, parce que tu as ce désir tellement immense de révéler qui tu es à cette Église de France, à cette nation de France. Tu as un amour pour elle et tu veux te révéler comme Père, parce qu'elle crie, c'est son cri. Et tu as entendu ce cri et tu veux te manifester d'abord à ton Église. Alors Père, révèle qui tu es à ceux qui ne te connaissent pas. Et ceux qui te connaissent déjà un peu, eh bien, élargis le cœur de Père. Élargis, qu'on soit des pères et des mères selon ton cœur pour le transmettre, pour participer à cette révélation des enfants de Dieu. Père, fais ton œuvre en nous. Tu es un Dieu immense, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu de liberté, un Dieu de grâce, un Dieu de bonté. Et on veut dire qui tu es, manifester qui tu es. Amen.